Joanne Mompard, tu diriges depuis 2021 le théâtre Amstramgram, centre international de création, partenaire de l'enfance et la jeunesse. Avant cela, tu as eu un riche parcours de comédien et de metteur en scène, tantôt pour des pièces destinées aux adultes, tantôt aux plus jeunes. Pour commencer, aurais-tu un souvenir d'une émotion forte que tu as éprouvée enfant à travers l'art ?
Oui. Ben, l'émotion la plus forte, ça a été celle des Correfox. C'est le carnaval catalan à Barcelone, en fait. C'est quand il y a plein... D'ailleurs, la troupe de Comedians, qui est une troupe très connue internationalement, en fait, s'inspire de ces carnavals-là. Et c'est des carnavals dans lesquels, en fait, on s'accroche des feux d'artifice voilà, à la queue du diable, et on court dans la foule. Et tout en... Aussi le saut par-dessus le feu, à la Saint-Jean, c'est des souvenirs les plus forts, on va dire. C'est une relation à l'art, hein, vu que c'est rituel. Et c'est ça, un peu, le plus fort. La peur, l'envie d'être ensemble avec d'autres, le fait de se cacher, de courir encore, et puis d'allumer soi-même des pétards.
Ah, ça a l'air assez dingue, effectivement. Mm-hmm. Ton premier contact avec le jeune public a eu lieu quand tu étais comédien. Qu'est-ce qui change dans la relation entre la scène et la salle par rapport à une audience plus âgée ?
Alors, bah, moi, j'ai souvenir de... J'étais d'ailleurs à Amstramgram pour l'histoire du soldat. Et l'histoire du soldat, c'est donc que je jouais le Joseph Duprat, le soldat, qui à trois reprises, ayant vu qu'il a donné son âme au diable, il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire ? Et il pose la question trois fois dans le texte de Ramu. Et j'ai senti que la première fois, quand je posais la question, bien, il y avait une sorte de frémissement dans la salle, ce que j'avais rarement senti, mais quand même un peu, avec du public adulte. La deuxième fois que j'ai posé la question, ils se sont concertés dans la salle, en scolaire. En scolaire, c'est-à-dire c'est une représentation où il n'y a que des enfants. Hein. Mm-hmm. L'air de dire, ils nous parlent. Là, ils nous parlent. Et à la troisième fois que j'ai posé la question, ils m'ont répondu très fort. Et ils m'ont dit, suicide-toi, rends le livre, vu que c'est le livre que j'ai reçu en remplacement du violon. Et c'est drôle parce que dernièrement, je parlais avec une grande créatrice italienne qui s'appelle Chiara Guidi, qui avait créé la Societas Raffaello Zanzio. Elle me racontait, en parlant du jeune public, comme ça, du public enfant, que c'est un public qui nous ramène en fait aux origines du théâtre, au chaos originel, au chaos qui est donc celui de la bacchanale. Et puis plus près de nous, aussi au théâtre élisabéthain. Le théâtre élisabéthain, au Globe, paraît-il, il y avait des gens du public qui venaient sur scène pour prendre la défense tantôt des Montagu, tantôt des Capulet. Ils dégainaient leur épée, ils buvaient. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dont je ne peux peut-être pas parler dans le théâtre à ce moment-là.
Sur scène ?
Non, alors ça c'était plutôt dans la salle. On pouvait faire l'amour dans la salle, hein. Il y a des écrits qui en attestent. Manger. C'est pas forcément pour ces deux aspects-là, mais plutôt pour celui de l'expression de la jeunesse, que je trouve qu'il faut un peu se rappeler que le fait de se taire, de devoir se taire dans une salle de spectacle, mm-hmm. est somme toute assez moderne. Et que tout ça nous vient peut-être du 17e, d'un certain académisme, et puis d'une tradition somme toute très récente, mais qu'il faudrait peut-être laisser plus le public s'exprimer dans les salles.
Le laisser vivre. En 2010, tu crées le spectacle La Reine des Neiges. C'est ta première mise en scène. Les représentations ont lieu aussi au théâtre Amstramgram, qui était à l'époque dirigé par Dominique Caton. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à la mise en scène ?
Je crois que, bon, on vient de le citer, Dominique Caton a vraiment créé avec Nathalie Natt un lieu unique. C'est une référence mondiale. Je le vois maintenant quand je voyage, etc. Et il a, moi j'ai l'impression d'un cœur qui bat à Amstramgram, un cœur qui bat pour la relation avec l'enfance et la jeunesse. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des archives de la RTS où Dominique Caton a interviewé, avec d'ailleurs il y avait Charles Joris, qui était aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, un grand nom du théâtre, créateur du théâtre populaire roman. Il parlait de décolonisation générationnelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on dit « laisser l'expression », donner voix au chapitre à l'enfance et la jeunesse, leur permettre de participer aux discussions, en fait, pour un futur engageant. Dominique, déjà à cette époque-là, il parlait de décolonisation générationnelle, parentale, en citant Gérard Mandel, qui était un sociopsychologue, on va dire, sociopsychanalyste aussi. Et je trouve que depuis toujours, ça a été le rêve d'Amstramgram, rêve dans lequel on s'inscrit, on essaie de s'inscrire. Bah, c'est celui d'une relation renouvelée avec ces générations-là, et puis de pouvoir se dire, c'est des partenaires qualifiés, en fait, c'est des citoyens aussi du monde et des États dans lesquels nous vivons. Et effectivement, comme tu le disais en intro, ben, peut-être qu'en les faisant participer, on pourrait voir le monde d'une très jolie manière.
Alors, absolument. Pour en revenir donc à cette pièce, elle était proposée par ta compagnie, la compagnie que tu as fondée, Youm Théâtre. C'était la première d'une longue série. On suivit Ventre au soleil, Munchausen, Mon chien Dieu et aussi des spectacles à destination des adultes. Quel est le credo de cette compagnie?
Bah, mettre en doute. En fait, c'était donner voix au chapitre, par exemple pour les spectacles adultes, c'était donner voix au chapitre à celles et ceux qui en fait ne sont pas beaucoup entendus. Il y avait eu Dario Fo avec les personnes qui étaient précarisées, qui mentaient en fait qui usaient de la désobéissance civile dans le Turin des années 70-80. Dario Fo aussi, Brecht, les plus précarisés des précarisés. Donc c'était de donner voix au chapitre par des œuvres d'art en fait. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait réfléchir. Et puis pour le théâtre jeune public, alors là vraiment c'était très clair, c'était une mise en doute. Est-ce que papa et maman disent vraiment la vérité? Est-ce qu'il faut vraiment aller à l'école à l'heure? Est-ce que c'est bien de se lever aussitôt? Est-ce que c'est pas l'amitié en fait qui pourrait nous sauver? Est-ce que le quantitatif qui est proposé donc dans l'enseignement scolaire devrait pas un petit peu faire de place au qualitatif au-delà du travail des enseignants qui est quand même formidable, hein, c'est les héroïnes et les héros, je pense, de notre époque. Mais donner cette sensation de doute, de pouvoir douter des générations qu'on pourrait appeler surplombantes, et aussi de tout un système de vie dans lequel ils s'inscrivent, alors que, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'ils ont d'autres intuitions. Donc refaire la part belle à l'intuition et avoir confiance en soi. En fait, ça peut se résumer à avoir l'audace d'être soi quand on est petit.
Très bien. Je crois que je n'ai pas assez douté, enfant. En fait, si on ne doute pas enfant, on doute de toute façon plus tard. Donc, autant commencer jeune, finalement.
Oui, il faut mettre en doute. Il faut mettre en doute. Et puis, il faut mettre en doute de manière communautaire. Là, je reviens de Marseille, où j'ai travaillé dans un groupe qui s'appelle Marseille Ville Informée sur le Trauma, où on est appelé Amstramram, en fait, pour les implémentations dans les écoles. Et puis, j'ai entendu parler, par exemple, d'enfants médiateurs dans les écoles pour régler les conflits. C'est-à-dire de responsabiliser en fait les enfants à propos des sujets qui les concernent. Ça ne veut pas dire la dictature des enfants et des adolescents, hein, qu'on s'entende, mais c'est vraiment l'esprit du dialogue intergénérationnel qui permet en fait de se considérer voilà, comme une communauté de vie et de destin et de participer au dialogue quel que soit notre âge.
Et quelle est l'évolution par rapport à l'époque où toi, tu étais enfant? Ça, c'était possible ou pas du tout?
Alors, par rapport à l'époque où moi j'étais enfant, je pense que c'était moins possible. Et si ça l'était, ça l'était dans des cercles... Bon, ça fait longtemps, en fait, hein, qu'il y a des tentatives qui sont en termes de pédagogie, etc., qui sont proposées pour pouvoir, en fait, considérer l'enfant autrement ou lui permettre de vivre autrement. Mais la question, c'est celle du contexte et de l'attitude. Alors, le contexte est toujours posé par l'adulte. Donc pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas justement de manière communautaire avec ces générations-là à voir qu'est-ce qu'on met comme contexte quoi, pour certaines situations, pour l'école. Nous, on fait des agoras, par exemple, à Amstramgram. Bon, bah, les agoras, c'est des moments où sur tout un week-end, on peut réfléchir à une thématique et c'est en partie les adultes, fortement même les adultes, hein, faut bien le dire, qui mettons en place les jeux, les spectacles qui sont programmés. Mais il y a toute une partie, en fait, qui sont gérées par les enfants. Et c'est assez brillant, il faut le dire. Et c'est aussi assez agréable de ne pas être tout le temps dans cette relation de juste responsabilité surplombante quand on est un adulte et qu'on voit un enfant.
Et donc, les enfants sont considérés comme des partenaires qualifiés pour le débat dans ces agora.
Oui.
Mais comment être certain qu'ils ont une pensée indépendante et qu'ils ne pensent pas simplement comme leurs parents?
Alors, il faut probablement... là, c'est là où intervient une notion... primordiale, c'est celle du temps. Il faut prendre le temps. Il faut se mettre en pause par rapport aux manières de réfléchir et laisser un espace de silence qui peut inviter en fait à une réflexion différente. Alors après, il y a plein de méthodologies. Hein. On a fait par exemple des dialogues philosophique qui était très très bien menée par l'association Improphilo. C'est vraiment des experts de comment pourrait-on dire, de l'incitation à parler. Et quand ils sont venus chez nous, ou quand on va dans les écoles aussi, bah en fait, ils incitent à parler de manière horizontale. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on a le droit de plus parler qu'un enfant, par exemple. Et puis, ce que disent les enfants ou les adultes ont pratiquement la même valeur. Et je pense que c'est ça qui peut-être changer, c'est que par rapport à mon époque, déjà moi je pense que je pouvais moins, si je le pouvais c'était sous les conditions d'un adulte, et aujourd'hui ces conditions-là, elles peuvent être réfléchies en commun, intergénérationnellement.
Depuis le début de l'heure, Johan Montpart, le directeur du théâtre Amstramgram, est avec nous. Alors, on n'a pas encore parlé du programme de ton institution, partenaire de l'enfance et la jeunesse. Tout d'abord, tu as repris les commandes de ce lieu en juillet 2021 avec un projet intitulé « Demain ». C'est grâce à lui que tu as obtenu le poste. Quelles sont ces grandes lignes? En partie.
Les grandes lignes, déjà, c'est que, aujourd'hui, par exemple, dans l'écologie, on a beaucoup de personnes qui disent, il faut se réunir en petite communauté et puis réfléchir en circuit court. Et puis comme ça, c'est vraiment des moyens d'action et des initiatives qui peuvent être plus concrètes. Que de s'attaquer globalement à tous les problèmes. Une salle de spectacle, c'est ça. C'est une petite communauté qui réfléchit en même temps. Alors, c'est quand même assez précieux. Donc, à partir de là, on a créé un système d'agora. J'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est quand même très vertueux parce que, du coup, c'est vraiment un déploiement de... On appelle ça du dialogue augmenté. C'est dans concentré de dialogue. Et puis, il y a un dialogue intergénérationnel. Alors, des thématiques qu'on a eues jusqu'ici, ça a été l'eau, l'alimentation... Le climat, l'expression des filles. Sur l'expression des filles, c'était une étude d'Isabelle Collet de l'Université de Genève qui avait remarqué que l'expression des filles en crèche, à l'école, à l'université, n'était pas du tout considérée de la même manière que celle des garçons. Par exemple, à l'université, l'expression des étudiantes, c'était plus pour confirmer le cours, alors que l'expression des garçons, c'était pour développer le cours. Donc on a fait une agora là-dessus qui s'appelait « Et les filles ?» point d'exclamation. Après, on a fait une sur les transidentités aussi, en collaboration avec Alex Scapetici du Refuge à Genève. Et à chaque fois, c'est un projet, on va dire, qui est un projet artistique certes, mais de société. Et je vis dans une certaine schizophrénie, on va dire, parce qu'en même temps, on a notre première mission qui est celle de proposer des spectacles. Alors là, on vient d'accueillir Martin Zimmermann avec un spectacle somptueux. Il y a Marjolaine Minot qui est en train de jouer en ce moment. C'est vraiment des spectacles, on va dire, entre guillemets, des fois sous une forme plus traditionnelle. Et ensuite, on a tout ce qui est la veine de pas tant artistique que ça. Les agora, finalement, oui, il y a des spectacles dedans, mais c'est pas super artistique. C'est du dialogue, c'est de la mise en relation, c'est de la vie en commun. Et puis après, il y a ce phénomène que c'est mis en partage avec les jeunes générations. Donc, demain, c'est peut-être pas un si bon titre, d'ailleurs.
Ah, si tu devais le choisir aujourd'hui,
qu'on me dit souvent, Johan, vous avez le public de demain. Et je réponds, mais pas du tout. J'ai le public d'aujourd'hui et de demain. Contrairement à toi, qui est le public d'aujourd'hui, mais pas de demain. Parce qu'ils seront morts. Donc... l'idée, c'est vraiment de pouvoir considérer cette présence comme éclairante pour le monde d'aujourd'hui et de demain.
Et quand tu parles de présence éclairante, après les agora, vous transmettez des messages en ressortent, et qu'est-ce que vous en faites?
Alors, on a pensé de l'envoyer au Conseil fédéral, qui est obligé de nous répondre. Mais sinon...
Vous l'avez fait ou vous
alors,
allez...
Alors non, on ne l'a pas encore fait. Je dois l'avouer, c'est un projet, on ne l'a pas encore fait, on veut le faire depuis longtemps. Ils sont obligés de nous répondre, alors on verra ce qu'ils nous répondent. Mais non, ce qu'on fait, c'est que ça définit en fait les... Par exemple, il y a des sorties de laboratoire sur la thématique, etc. etc. Et puis du coup, ça définit la saison d'après. Ça définit en fait aussi les agora qui viennent. Alors par exemple là, au mois de mai, on en fait une sur les amours. Où il va y avoir un psychiatre de Marseille qui va parler de ses amours avec une personne Asperger. D'accord ? Eh bien, ça concerne l'amour, mais ça concerne la santé mentale. Et en fait, Bon, il va le faire en collaboration avec sa famille, ses enfants, hein, pour que ce soit toujours intergénérationnel, etc. Eh bien, ça va donner lieu à probablement plus tard une agora, dans un an ou deux, sur la santé mentale.
En novembre dernier, vous avez présenté The Loft Theory, oui. Un projet d'un genre particulier. Il s'agit de théâtre documentaire et télé-réalité. Et qu'est-ce que c'est que ce genre hybride ?
Alors, juste en quelques mots, on a un contexte de création et une mode dans le théâtre jeune public qui est celui de la participation en fait, des ados. Alors, moi, je trouve ça super, vous l'avez remarqué, mais il y a une telle explosion en fait, de participation que ça pose certaines questions. C'est, qu'est-ce qu'on leur demande ? Alors, parfois, il y a deux voies. Il y a celle du fonctionnement des maisons. Alors, il y a beaucoup de comités de programmation qui sont faits intergénérationnels et c'est somme toute très bien. Moi, je me disais, bon, peut-être qu'il y a moyen de démocratiser, en fait, ces inputs-là, ces avis-là, ces dans les maisons. Et puis, c'est pour ça qu'on a fait les agora. Mais en même temps, ça me posait la question fondamentale de qu'est-ce qu'on leur demande quand ils viennent. Et du coup, il y a une autre question qui s'est posée, c'est celle de l'habitabilité, vu que tu as dit le mot, je rebondis dessus, de l'institution. C'est une institution qui est à leur service. Et pourtant, ils y viennent comme invités. Et s'ils l'habitaient ? Donc, Loft Theory, c'est l'autre veine de participation, c'est celle qui est plus artistique. C'est en fait vivre au théâtre. Alors, il y a eu une résidence, on n'a pas pu la faire au théâtre tout le temps parce que c'était impossible techniquement, mais où un groupe de jeunes conçus depuis 2021 sont allés vivre dans des appartements en ville de Genève, où ils ont parlé et ils ont mangé des pâtes. OK ? Et du coup, on a eu pour la création de ce Loft Theory, depuis l'expérience, leur expérience pendant la résidence, la forme du spectacle qui naît. Parce que souvent, il y a un grand metteur en scène, comme moi ou comme José, qui venons et qui disons aux jeunes, « Bon, ben, je t'ai écrit un texte, puis je t'ai fait un joli décor, puis tu vas te mettre là, non, plus à gauche, plus à droite. Voilà, là, t'es bien, l'adolescent, super. » Tu vois ? Et là, le but, c'est que la forme du spectacle elle-même, elle est définie par l'expérience, en fait, en commun. Donc, ils ont mangé des pâtes et ils ont discuté entre eux. Eh bien, le spectacle, c'est un film dans lequel ils discutent et ils parlent. Alors, des différents sujets comme la santé mentale, en l'occurrence, l'amour.
On a un extrait, ouais. On va peut-être écouter. Donc, enfants et ados cohabitaient.
Mm-hmm. C'est un peu bizarre, j'ai un peu peur des ados. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'ils m'agressent. Parce qu'une fois, j'ai vu des ados embêter un autre ado et ça m'a un peu fait peur. J'ai peur d'avoir des boutons d'acné.
Marteau.
Mais t'as touché.
C'est quoi, j'ai une carte.
Igloo.
Faut la poser. Si t'as le même, si t'as le même truc, faut
si
la poser.
T'as le même signe. Bonhomme, Zita. Bonhomme.
Voiture.
Mais arrête de tricher.
Zita. Zita, fais un effort. Arrêtez.
Mais je regarde, mais vous me perturbez, vous hurlez mon nom.
Arrêtez.
Doit être en train de pousser.
En deuxième partie d'extrait, le groupe était en plein jeu de double. Les moments où tout le monde est réuni alternent avec des instants de confidence seul.
Il y a genre un an, j'ai commencé à vraiment me dire, à réaliser que j'étais en train d'exister. C'est très bizarre. Donc en fait, je me disais, mais en fait là, t'es en train d'exister, c'est super bizarre. Et ça me faisait tourner la tête. Et vraiment, à un moment, j'avais la tête qui tournait et j'arrivais plus à réfléchir. C'est comme si tu prends conscience de ton existence, tu sais que ça n'a aucun sens. Et du coup, bah, ça me faisait tourner la tête, c'était très bizarre. Et j'ai eu ça pendant genre un mois. Je pensais souvent à ça et c'était, je sais pas, c'était très étrange.
On vient d'entendre Mafalda, je crois. Donc là, c'est la partie film.
Oui, alors il y a une partie film à laquelle on assiste. Alors c'est une partie où il s'exprime, par exemple, il y a une fille qui s'exprime sur son internement en fait dans un HP. C'est assez fort de voir comment ils décrivent les manières qu'ils ont de contourner en fait les outils de la psychiatrie parfois. Et on ne peut pas avoir ce témoignage-là de la part d'adultes. Il faut les gens qui empiriquement l'ont vécu, donc ces adolescents-là, qui nous parlent de nos outils, en fait, qu'on a construits de société, là, en l'occurrence, les outils de santé mentale, et qui, en quelque sorte, c'est pas qu'ils en font une critique, mais ils parlent juste de leur expérience, et il apparaît assez clairement, notamment au regard du film et du témoignage de cette jeune fille, que ça mérite à être réfléchi, un tout petit peu. En tout cas, depuis le point de vue de la patiente, en l'occurrence. Mmh. Donc, il y a ce premier temps qui est un temps de parole dans lequel le public assiste. Alors, c'est sous la forme d'un film. Et ensuite, il y a un deuxième temps dans lequel on arrive dans une salle où il y a des immenses tables et on fait des pâtes ensemble. Alors, c'est assez joli de voir toutes ces mains de toute génération porter les pâtes qui vont finir jusque dans la casserole. Alors, elles passent à travers une machine à faire des pâtes. Et c'est un joli moment de communion. Et ensuite, il y a le moment du repas dans lequel on débriefe avec le public, mais ça fait aussi partie du spectacle parce qu'il y a des éléments spectaculaires dans le repas. Il y a un moment où, en fait, par exemple, il y a une fille qui s'exprime dans le film assez vertement sur les hommes. Hein, et du coup, moi, j'ai vu certains collègues, hommes, être tout petits à la table, se retrouver dans une situation où ils avaient entendu la jeune femme par rapport à ses appréhensions dans la relation en fait au masculin, et tout d'un coup prendre tout à fait une autre manière, d'autres dispositions dans la relation. Donc c'est un projet, on va dire, en même temps artistique, et je pense, mais humblement dans le cadre de ce que c'est un théâtre, c'est un projet de transformation sociale. Il y a la résidence qui crée la forme, et ensuite dans la résidence il y a de la parole qui répare, cette parole est mise en commun, et en fait le public au final, il a accès à toute l'expérience par procuration, y compris celle de manger des pâtes physiquement, et je crois que ça rejoint ce qu'on appelle la catharsis au théâtre, en tout cas dans la définition que j'en ai. La catharsis, c'est plus de connaissances qui permet une certaine paix. La paix, elle démarre déjà depuis les intimes, et comme toujours au théâtre, on espère les artistes que c'est comme ça. Mais depuis ces petits territoires de paix ou intime, intérieur, en fait, ça donnera un chouïa, je dis ça du bout de lèvres parce que j'espère que c'est pas trop gonflé, mais que ça donnera un petit peu de paix sociale.
Donc, dans ce projet-là, il y a clairement de l'intergénérationnel, comme dans beaucoup d'autres projets que vous proposez. On n'a pas le temps de les détailler tous, mais tu donnes un atelier intergénérationnel de fantaisie dissidente. Ça, c'est ouvert à tout le monde ?
Oui, c'est ouvert. Là, il y a des gens qui sont de 14 ans jusqu'à 65 ans. Et puis, en fait, on se retrouve toutes les semaines, puis on se raconte ce qu'on a vu de fantaisie dissidente. Alors, il y a des gens qui racontent qu'ils ont une femme ouvrir un parapluie rose au milieu du marché de plein palais, puis se mettre à danser au milieu, puis tous les trucs un peu étranges, tous les trucs qui sortent un peu de la norme, etc. Et puis après, on a un système de déploiement, en fait, de la parole aussi. Alors, c'est très chouette de voir les ados cohabiter avec des gens de mon âge ou des gens même un petit peu plus âgés. C'est une très jolie petite communauté dans laquelle, en fait, on met en forme et en parole les rêves qu'on a. Et puis après, il y a une restitution qui est faite en fin de saison. Je tiens à citer juste Caroline Bernard pour le Loft Théorie dont on a parlé, parce que c'est
oui,
une artiste
absolument
formidable. Et Gaël Siller, qui est donc son co-créateur.